Une vaste nappe d'eau, le commencement d'un lac ou d'un océan, s'étendait au-delà des limites de la vue. Le rivage largement échancré offrait aux dernières ondulations des vagues un sable fin, doré et parsemé de ces petits coquillages où vécurent les premiers êtres de la création. Les flots s'y brisaient avec ce murmure sonore particulier au milieu clos et immense. Une légère écume s'envolait au souffle d'un vent modéré et quelques embruns m'arrivaient au visage. Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. On eût aimé avoir un narrateur comme Axel pour nous rapporter la découverte de cette vaste surface d'eau liquide, cette fois sous la surface de Mars. Bonjour Sylvestre Maurice.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes astrophysicien, planétologue à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de l'Université de Toulouse et du CNES, le Centre national d'études spatiales. Comment vous le représentez, ce lac sous-martien, à défaut de pouvoir le décrire comme Axel ?
Sous-martien, vous le dites bien. Alors, il faut imaginer qu'aujourd'hui, pour des conditions de température et de pression, ce n'est pas possible d'avoir de l'eau liquide à la surface de Mars. D'ailleurs, c'est le propre de la Terre. La Terre est la seule planète qui a de l'eau liquide à sa surface. Donc, on va chercher de l'eau ailleurs, de l'eau liquide. De la glace, il y en a sur Mars. Ça, c'est pas un problème. Et de la glace, il y en a au pôle Nord, au pôle Sud. Il y a des calottes glaciaires qui ressemblent un peu aux calottes qui sont les nôtres. Alors, sous ces calottes, sous cette glace, donc à l'abri, en quelque sorte, du vide, du quasi-vide, il y a très peu d'atmosphère sur Mars, on a découvert de l'eau liquide. Alors c'est très important, c'est un radar, un satellite qui tourne autour de Mars, s'appelle Mars Express, qui est européen. Il a un radar italien-américain qui, depuis des années, sonde sous la surface de Mars. On espérait ce résultat, en fait, très honnêtement, on est un petit peu déçu parce que on espérait trouver de l'eau sous la roche, une sorte de poche d'eau. Là, on va trouver de l'eau coincée entre la glace et la surface. Alors, on ne sait pas combien d'eau. On a vu l'étendue, une vingtaine de kilomètres, mais on n'a aucune idée de la profondeur. C'est-à-dire que ça peut être 10 centimètres, 1 mètre ou 200 mètres. C'est-à-dire que ça peut être une flaque ou bien un vrai réservoir. Qui plus est, pour avoir de l'eau liquide à cet endroit, il fait très froid. On va parler de moins 68 degrés. Essayer de faire de l'eau à moins 68 degrés, eh bien, il faut mettre du sel. Il faut la charger en sel. Ça s'appelle une saumure.
Elle est saumâtre, cette eau.
Saumâtre,
alors.
Terriblement. Vous n'y mettriez pas un pied. Ça serait trop dur. Et donc, on a ce qui peut être une flaque d'eau coincée sous la glace, entre la glace et la roche. Le problème pour nous, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi elle est là, cette eau.
Alors, parce que d'abord, on ne dit jamais que c'est trop salé avant d'avoir goûté. Ce radar, comment il a opéré pour accéder à cette eau-là ? Et comment on peut être sûr que si l'eau est liquide, l'information, elle, est solide ? C'est-à-dire, comment on peut être sûr que ce radar n'a pas tout simplement pris quelques gouttelettes qui ruissellent ici et là pour un lac ?
Exactement. Alors, c'est une détection qui est très difficile à faire. C'est un radar qui envoie une onde, quelques mégahertz, et puis qui va regarder ce qui revient vers lui, et puis c'est l'écho. Et l'écho se produit principalement lorsque des paramètres physiques qu'on appelle les constantes diélectriques sont très différents. Ils sont assez peu différents entre la roche et la glace, par exemple. Ils sont très différents entre l'eau liquide et la glace. Et donc, c'est une détection qui, parmi les détections des radars, est pratiquement la plus facile. Donc, la détection est faite. Bon, j'ai regardé les données, c'est pas d'une grande certitude. Ça a vraiment besoin d'être consolidé.
Donc, quand vous avez lu l'information dans la revue Science, vous l'avez accueilli comment ? Les yeux écarquillés ou en haussant les épaules ?
C'est toujours une belle information parce que ça démarre quelque chose. On avait quelques années une découverte un peu similaire qui s'appelle les RSL, qui sont des écoulements d'eau saumâtre. On est vraiment dans cette eau saumâtre. Faut reconnaître que l'eau liquide, c'est le guide de la recherche sur Mars. Et donc, on la cherche partout. Mais je voudrais revenir sur cette eau liquide parce qu'elle me pose un problème. En lisant ça, je me dis, mais pourquoi elle est là ? Vous savez que sur Terre, on a des poches d'eau sous la glace, sous le Groenland, sous l'Antarctique. L'Antarctique, par exemple, le lac Vostok. Alors, ces poches d'eau sont créées par la pression. Vous mettez beaucoup de glace, 4 km de glace, ça crée tellement de pression que la physique, on appelle ça la droite de Clapeyron inversée, ça c'est pour les spécialistes, mais la physique nous dit que l'eau de la glace va se transformer en liquide sous la pression. Ou bien on peut imaginer qu'il y a de la géothermie, c'est-à-dire que ça réchauffe de l'intérieur. Or, sur Mars, il n'y a ni géothermie, et puis on va trouver là, sous 1,5 km de glace, sachant que la gravité n'est que d'un tiers, n'oubliez jamais, il y a moins de gravité sur Mars, que petite planète, à la fin, on n'a ni la pression, ni la géothermie pour la créer, cette eau liquide. Donc, Donc, quand j'ai vu la découverte, je me dis, bon, je pense qu'il faut la consolider parce que je le signale, je le vois tout juste, hein, un peu les yeux de la foi, mais c'est publié, on le prend et puis on va avancer. Et puis en même temps, je me dis, mais comment est-ce qu'elle est venue là, cette eau? Pour l'instant, on n'a pas d'idée. Des océans sous la glace, on en connaît sur Europa autour de Jupiter, hein, on en connaît sur Encelade autour de Saturne. Voilà, c'est pas une nouveauté. Là, sur Mars, ben voilà, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. Faut s'y intéresser.
Donc, c'est une découverte qui pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Dire que ce lac peut témoigner de ce qu'il y aurait eu une grande quantité d'eau liquide et de lac il y a plusieurs milliards d'années sur Mars, c'est de la surinterprétation pour l'instant.
Exactement. L'histoire de l'eau est importante sur Mars. Aujourd'hui, je l'ai dit, il n'y a pas d'eau liquide en surface. Mais dans le passé, il y a 3,5 milliards d'années, on a des évidences comme quoi coulait de l'eau. Il y avait des fleuves, des rivières, on n'est pas sûr qu'on pourrait dire un océan, mais peut-être des petites mers. On en voit des traces, on voit même ce qu'on appelle des bords de plage. Donc on sait qu'il y avait cette eau liquide, parce qu'à l'époque, il y avait une atmosphère dense, une atmosphère peut-être de 1 bar, 2 bar de CO2, ce fameux gaz à effet de serre qu'on essaie d'éviter, nous, sur Terre. Ben, il était bien là, sur Mars, et il réchauffait tellement que l'eau liquide était possible. Et puis cette atmosphère a disparu, on pourra se poser les questions pourquoi, mais elle disparaît, l'atmosphère, et en disparaissant, eh bien, disparaît cette eau liquide. Donc, la planète mouillée, la planète humide, chaude, alors chaude, pas très très chaude, mais dont on rêve, c'est une Mars ancienne. Aujourd'hui, ça reste une planète terriblement aride, terriblement froide, et puis sèche, et donc sèche avec peut-être ponctuellement, je dirais épisodiquement, ces petites histoires de saumure.
Qu'est-ce que ça pourrait nous dire éventuellement de cette théorie de plusieurs scientifiques, et je ne sais pas si vous y adhérez, mais qui est de dire que la Terre et Mars ont sans doute été des astres jumeaux?
Alors, non, ça c'est une théorie validée, que je pense assez consensuelle. Bon, déjà l'idée que Mars et la Terre naissent au même moment. Il y a 4,56 milliards d'années. On le sait, c'est assez solide.
Mais monozygote ou dizygote, les jumeaux, parce qu'ils sont nés de la même matière.
C'est même pas des jumeaux, c'est des triplés, des quadruplés, parce qu'en même temps va naître Vénus, et puis va naître Mercure, et puis va naître d'autres planètes, Jupiter, Saturne, et puis d'autres qu'on a oubliées, Théia, une planète que vous ne connaissez pas, Théia, mais elle est importante.
Mais
Théia,
comment vous le savez d'abord? Je connais pas Théia.
Non, mais je sais. Vous connaissez Théia?
Non.
Alors Théia, c'est une petite planète, genre Mars, qui d'ailleurs bouger sur son orbite et viendra frapper la Terre. Et de la collision de la Terre et Théia naîtra la Lune. Donc c'est une histoire importante pour nous. Toutes ces planètes naissent en même temps. Et elles naissent, vous savez, quand les planètes naissent, c'est de l'accrétion. Et donc elles sont très chaudes, genre océan de magma, les éléments lourds tombent au centre, les éléments légers flottent plutôt. Mais c'est une planète très très chaude qui se refroidissent et qui, lorsque se refroidissent, voit des atmosphères apparaître, potentiellement cette fameuse eau liquide dont on rêve. Et effectivement, on pense que ce qui s'est passé sur Terre s'est passé sur Mars, et réciproquement. Et puis, la Terre a évolué de cette eau lentement. L'atmosphère va rester, va naître la vie. Hein. La vie, on ne sait pas quand, mais elle apparaît il y a 2,7 milliards d'années, ça c'est sûr. 3,5, on le pense. Certains voudraient dire 3,9. Hein. C'est-à-dire on n'est pas très loin des 4,5 du démarrage. La vie apparaît. Et puis, la vie va se développer dans les océans, dans l'eau, pendant 3 milliards d'années sur Terre, jusqu'à exploser dans le dernier milliard d'années, les derniers 550 millions d'années. Ce qui est important, c'est que la Terre a eu cette histoire complexe de naissance de la vie qu'elle a oubliée. La Terre est une planète extraordinairement active. Vous savez, c'est une planète avec de l'érosion, l'érosion du vent, l'érosion de l'eau, la tectonique des plaques. Ce qui fait que la Terre n'a pas de mémoire. Aller chercher sur Terre un vieux caillou, c'est quasi impossible. Alors que Mars, à l'inverse, est une planète figée dans son passé.
Donc c'est notre mémoire en quelque sorte.
Exactement. C'est tout ça, c'est en quelque sorte le pitch de l'exploration martienne. C'est aller sur Mars pour essayer de trouver, de comprendre comment naît l'habitabilité, naît la vie sur une planète. Et ça, c'est figé sur Mars.
Voilà, nécessairement poser la question, y a-t-il de l'eau sur Mars? Pose aussi celle de y a-t-il eu ou y a-t-il de la vie sur Mars? Parmi toutes les missions en cours ou à venir, et on est un peu perdu parce qu'il y en a beaucoup, est-ce que certaines pourront permettre de dire si Mars a été habité ou non?
Alors, ces missions se bousculent un peu. Vous avez raison, il y a un effort collectif international sans précédent.
Une ruée vers Mars.
Une ruée, mais on y est. En fait, vous savez, alors qu'on se parle, il y a des orbiteurs autour de Mars. Il y a 3 Américains qui sont véhicules qui sont en orbite, 2 Européens et 1 Indien. Donc, on a 6 véhicules qui, en ce moment, tournent autour de Mars. À la surface, on en a 2, Opportunity et Curiosity, 2 rovers américains. Ça fait 8. On en a un 9e en chemin, c'est InSight. Il arrive le 26 novembre, ne ratez pas ça. C'est un très très beau véhicule, un lander américain, avec un instrument principal qui est français, qui a été fait par l'Institut de physique du globe, et c'est un sismomètre. Donc, on est à 8, on va passer à 9, et les chronos de lancement, c'est tous les 2 ans. Hein. Et donc, le prochain, ça sera en 2020, en juillet 2020, et là, on va en tirer 4 missions. Et ces 4 missions, pour 3 d'entre elles, sont dédiées à la recherche, justement, de traces de vie. Toutes les missions des années 2000 étaient plutôt dans cette idée l'eau. Je cherche des traces d'eau.
Et on avait d'ailleurs trouvé de l'argile, et c'était une preuve que l'eau avait existé.
Les argiles qu'ont découvert l'instrument français Omega sur Mars Express, encore Mars Express, témoignaient de ce passé à queue, il y a très longtemps, encore une fois, de Mars. Et puis, lentement, avec Curiosity, on est arrivé à l'habitabilité. Donc, est-ce que cette eau rend finalement la planète habitable, et ça a été démontré. 2020, une mission européenne qui s'appelle ExoMars, une mission américaine qui s'appelle Mars 2020, une mission chinoise, la première mission chinoise. Ça y est, les Chinois arrivent sur Mars, alors ils arrivent carrément avec un orbiteur et un lander, un rover et un lander et un orbiteur, tout à la fois, ils arrivent. Et puis on aura même une mission des Émirats Arabes Unis, ça c'est complètement étonnant. Eux, c'est une mission orbitale, ils veulent célébrer ainsi les 50 ans de la naissance de leur pays. L'argument scientifique n'est pas là, c'est de la politique évidemment, c'est du prestige, mais c'est aussi rappeler que Mars est tout ça à la fois. C'est de la science, c'est aussi prouver aux autres qu'on est capable de le faire. C'est ce qu'il y a de plus dur en exploration planétaire, surtout quand on va à la surface. C'est prouver que finalement, on fait partie de ce grand concert des nations qui ont cette prétention scientifique.
Et les Russes, alors, ils ont laissé passer le coche. Ils sont toujours vexés de leur échec de 96. Il faut dire qu'ils étaient précurseurs.
Alors, les Russes ont été les champions de l'exploration spatiale, qu'elle soit habitée, évidemment. On s'en souvient de Gagarine et tous les autres. Qu'elle soit robotisée, avec des missions extraordinaires, les premières missions Luna 3, côté face cachée de la Lune, les premières missions Vénus, et d'ailleurs ce sont les seules jusqu'à maintenant à s'être posées sur la Lune, sur Vénus, et puis des missions martiennes avec peu de succès. Et finalement, les Russes disparaissent de l'exploration spatiale suite à leur, je dirais, leur schéma politique, leur histoire politique, et ils ont du mal à renaître. Ils ont tout à fait du mal à renaître. Leur dernière belle mission, c'était, ils ont eu des missions sur Mars, Phobos 1, Phobos 2 qui sont tombés en panne, une mission Mars 96 qui n'a pas bien décollé, une mission Phobos Ground en 2011 qui n'a pas réussi à décoller non plus. Pas de chance, ils ont disparu. Ils ont encore des instruments sur les différents véhicules, en particulier les véhicules américains. Ils sont présents sur Curiosity, par exemple. C'est compliqué. Comme quoi, on peut être le champion d'une affaire technologique et disparaître. La renaissance passera par des collaborations. Et en particulier, ils vont participer à ExoMars avec les Européens.
Et pourquoi alors ExoMars 2020 aurait plus de chances que les autres missions de découvrir de la vie sur Mars?
Je serais bien en peine de dire celle qui a plus de chances.
Qu'est-ce qu'elle a comme outil, alors, cette mission?
Les deux missions, ou les 3 qui seront des rovers, c'est-à-dire des petits véhicules qui roulent. Soit le chinois HX-1, soit ExoMars des Européens, soit Mars 2020 des Américains. Déjà, rouler va permettre d'explorer un site, la diversité d'un site. Chacun a sa petite caractéristique. Celle d'ExoMars, c'est de forer. On va forer jusqu'à 2 mètres de profondeur. On va essayer de faire une carotte et puis prélever, alors ça ne sera pas sous forme de carotte, ça va être de la poudre qu'on va broyer d'ailleurs, et puis la ramener à l'intérieur du véhicule. Et là, il y a des instruments, 8 instruments à peu près sur le rover, d'ailleurs pour moitié construits par les Français au moins. Et on va regarder très finement la minéralogie par exemple, ou bien comment les atomes sont attachés entre eux, des choses comme ça. Donc ça, c'est exomas, l'originalité, c'est jeu fort. Jeu fort à 2 mètres, dire sous la couche qui est soumise aux rayons cosmiques. Vous savez, la planète Mars n'a pas de champ magnétique pour la protéger. D'ailleurs, c'est bien ça qui probablement a perdu son atmosphère, hein, une des causes de la perte de son atmosphère. Et donc, les rayons qui viennent du Soleil, les rayons qui viennent de la galaxie, en général, qu'on appelle les rayons cosmiques, arrivent sur la surface et pénètrent dans à peu près 1 mètre. Et si on arrive à passer sous cette couche complètement détruite par les rayons cosmiques, on a peut-être des chances de trouver de la chimie organique un petit peu plus complexe. Ça, c'est, ça va être la caractéristique d'ExoMars. Mars 2020 des Américains ou bien HX1 des Chinois ont pris d'autres voies.
Et vous êtes sur le coup, vous, Sylvestre Maurice, qui êtes d'ailleurs, qui pouvait revendiquer la paternité de certains instruments ou outils français qui sont aujourd'hui sur le véhicule de la NASA, sur Curiosity.
Alors on est impliqué sur Curiosity avec 2 instruments, ChemCam et une contribution à l'instrument qu'on appelle SAM. On est impliqué évidemment sur ExoMars, on est impliqué sur HX1. On a construit en France depuis quelques années une expertise sur les instruments scientifiques. Ce qui est très important, c'est que quand un pays dit « je veux faire une mission vers Mars », alors il demande à son agence spatiale de le faire, que ce soit la NASA, l'ESA, le CNES, etc., ou bien quelle que soit l'agence. Et puis l'agence fait le véhicule en général. Il dit « bah voilà, je vais construire les roues, la tête, les antennes, etc. » Et puis il se retourne vers la communauté scientifique en disant « qui veut faire les instruments ?» C'est toujours important de comprendre que font les instruments les scientifiques qui en exploiteront les données. Ils posent les questions en disant « moi je vais chercher telle chose, j'ai besoin de tel instrument » et un jour ils auront les données. Et nous, dans les laboratoires du CNRS, des universités, on a cette compétence de construire des instruments pour Mars. Je pense qu'on a maintenant un certain savoir-faire.
Bon, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi employé à l'exploration de Mars, alors que parfois Mars vient à nous. Est-ce que vous aviez réussi à obtenir un petit gramme de cette météorite Black Beauty qu'on avait retrouvée dans le désert du Sahara en 2011? Déjà, comment est-ce qu'on pouvait être sûr qu'elle venait de Mars? Et puis je crois que ça s'est vendu à 10 000 euros le gramme. Voilà, donc je ne sais pas si vous aviez pu pour votre laboratoire vous en procurer
des météorites martiennes. Parlons de cette histoire des météorites martiennes. Et vous avez bien raison, Mars vient à nous. La planète Mars, elle se balade dans le système solaire et de temps en temps, comme sur Terre, il y a des impacts de météorites. Alors, comme il n'y a pas d'atmosphère, les impacts sont un peu plus forts parce que là, il n'y a pas ce filtre atmosphérique. Et puis, potentiellement, ça fait un petit trou. Dans le passé, quand il y avait beaucoup plus d'impact, heureusement il y en a moins maintenant, parce qu'il y a moins de corps qui traînent dans le système solaire, on peut imaginer que vous faites un impact sur Mars et ça va envoyer des particules finalement qui retombent sur Mars pour moitié, mais pour une autre moitié peuvent quitter Mars. Elles ont la vitesse d'échappement de Mars. Et alors elles se mettent à tourner autour du Soleil et potentiellement tomberont sur la Terre, sur la Lune, sur Vénus. Et nous, dans toutes nos météorites qu'on ramasse, vous savez qu'il y a des spécialistes des météorites qui vont dans les déserts, parce que c'est, par exemple, vous allez en Antarctique, si vous voyez un caillou en Antarctique, il est tombé du ciel, il n'est pas arrivé là par hasard.
Parce que j'allais dire, finalement, on a de la chance, ça tombe toujours dans le désert, ces météorites.
Non, c'est parce que c'est plus facile à trouver dans les déserts, mais il y a autant de chance. Et vous avez raison. Et des gens les trouvent et puis les ramassent et disent, tiens, ça c'est une météorite. Alors, avec l'œil, et moi je suis impressionné, ils disent, oui, bon, celle-là c'est une météorite, une chondrite de tel type, celle-là c'est une quelconque, etc. Il dit celle-là bizarre, elle a dû appartenir à un corps plus gros. Et donc on l'envoie dans les laboratoires, le Muséum d'Histoire Naturelle par exemple ici à Paris ou d'autres laboratoires qui l'étudient et qui regardent et tiens, il manque tel élément ou bien il y a telle composition. Et c'est ainsi que certaines d'entre elles, on les identifie comme venant de Mars. On les appelle les SNC, les météorites martiennes. Et ces météorites martiennes, on avait 10, on avait 20, 30, on est à peu près à 200. Elles ont une valeur extraordinaire. Nous, les laboratoires, malheureusement, quand elles sont identifiées comme venant de Mars, évidemment, vous l'avez dit, elles prennent des valeurs...
Mais je savais même pas que ça pouvait se vendre, en fait, une météorite.
Ah, mais il y a un marché incroyable.
Ah bon,
et d'ailleurs, les laboratoires en ont qu'une petite partie, parce que comme on les identifie comme venant de Mars, donc on en a une partie. Voilà. Et le reste va dans les collections privées. Et le marché des collections privées est extraordinaire et à plus de 90%. Mais nous, avec les peu, on fait de la bonne science. Black Beauty est un bel exemple parce que c'est une nature de roche un petit peu particulière. On en a d'autres. Ça ne remplacera pas la roche qu'un jour on retournera de Mars, faut bien le comprendre. Parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions elles ont été extraites, on ne sait pas à quel endroit. Donc il y a tellement d'informations qui nous manquent, mais c'est un petit peu de Mars quand même qui vient à nous.
Le marché de l'art spatial donc, et les chercheurs ont déduit de son observation que la cristallisation de la surface de Mars a été extrêmement rapide, en tout cas à l'échelle de l'univers, 20 millions d'années. C'est vrai que si on rappelle que la formation du système solaire s'est produite il y a 4 milliards 500 millions d'années et quelques poussières d'étoiles, c'est vrai que c'est assez récent, vous nous le disiez tout à l'heure. Sylvestre Maurice, vous restez avec nous pendant le journal. Nous aurons encore jusqu'à 8h30 pour imaginer l'homme sur Mars ou pas.